France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Agnès Jaoui. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Gaumont nous parlera du roman de Mathieu Bellesi, Attaquer la Terre et le Soleil, paru au Tripode. À 19h45, Affaires en cours. Depuis les années 2010, les mouvements des places ont modifié la définition même de nos espaces publics. Sandra Laugier, philosophe, expliquera à Marie Sorbier leur nouvelle fonction. 19h50, affaire à suivre avec ce soir une résidente de la Villa Albertine, la cinéaste Baïa Bencher Elfegoun. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Anthony Thomasson et Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Bonsoir Agnès Jaoui.
Bonsoir.
C'est parce que vous nous invitez dans votre salon que moi j'ai le plaisir de vous inviter dans mon émission, dans mon salon. C'est le titre de ce spectacle, Tour de chant, à découvrir en ce moment au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 17 octobre. Et puis bien sûr la suite de la tournée jusqu'au mois de mai. Vous y êtes avec l'ensemble Canto Alegre et l'orchestre Carabanchel. Vous le savez, il y a longtemps que je souhaitais vous recevoir, même si on a pu vous écouter récemment dans votre série d'entretiens sur France Culture à voix nue. Le moment est enfin arrivé, il y a longtemps que je vous aime, on est nombreux dans ce cas, et on va essayer dans les 40 minutes que nous allons à passer ensemble de revenir sur quelques moments dans une vie et une carrière très, très riche et très, très diverse. Alors savoir ce qui fait qu'un artiste a choisi sa voix, c'est une question lancinante de cette émission. Alors il y a bien sûr toujours une part de mystère. Souvent on nous a parlé d'un ou d'une professeure qui avait révélé ou sensibilisé à une pratique. Ce sont parfois les parents qui ont plongé leurs enfants dans un bain de culture, de curiosité. Dans votre cas, vous l'avez souvent dit, la seconde hypothèse qui prévaut, Agnès Jaoui, non seulement vos parents vous ont fait découvrir une quantité de choses à votre frère et à vous, mais ils l'ont fait d'une façon, dites-vous, pleine de sensibilité. Ils vous ont accompagné dans vos découvertes.
Oui, et puis il y avait cette idée... Je me souviens notamment d'être allée au musée. Mon père adorait le surréalisme et puis il y avait donc des collages, des trucs comme ça, etc. Et puis j'ai dit mais c'est trop facile. Je peux le faire. Donc il m'a dit fais-le. Et c'est quelque chose en fait qui était non seulement juste. D'ailleurs après le musée, souvent on faisait nous-mêmes des collages, des œuvres ensemble, etc. Mais en plus c'est encore un argument que je peux comprendre et que je peux dire quand quelqu'un, par exemple, va dire que le bleu de Klein, c'est quoi, un tableau bleu, ou etc. Enfin, bon, voilà, tout genre de réflexion qu'on peut avoir par rapport à un art moderne qu'on peut ne pas comprendre, j'ai envie de dire, fais-le. Voilà, enfin, c'est qu'il y a des gens qui font des choses, qui inventent des choses, alors libre à chacun de les aimer ou pas, mais voilà.
Parmi vos premières amours, il y a la littérature, enfant, la comtesse de Ségur, vous dites que ça vous a ancré en France, parce que les 8 premières années de votre vie, c'était en Tunisie.
Ah non, non.
Pas 8 ?
Non, enfin aucune. Non,
aucune ?
Non. Ah, pardon, non, non, excusez-moi, mais je suis née en France, je suis née à Antony, et après...
Vous n'avez jamais vécu en Tunisie ?
Non, non, non.
Dommage.
J'ai vécu à Sarcelles, qui est une sorte de succursale de la Tunisie, si vous voulez, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de juifs tunisiens là-bas, mais j'étais totalement en France.
D'accord, bon, alors, autant pour moi, mais la Tunisie, c'est une... Bon, c'est une histoire. littérature, comtesse de Ségur. Journal d'Anne Frank, là aussi, évidemment, une lecture qui vous marque pour plusieurs raisons. Parce que, il y a l'histoire, il y a la fin, la mort. Et il se dit que c'est à ce moment-là que vous commencez à écrire. Alors, est-ce vrai ou pas? Pourquoi? Pour laisser une trace, pour une preuve, comme une preuve de vie?
Complètement. Complètement. J'avais besoin de savoir que j'existais. Cette lecture m'a marqué terriblement. J'imagine que je me suis tout à fait identifiée à cette jeune fille. J'avais 11 ans, donc l'âge, je crois, où elle a commencé à se cacher, puisque c'était la guerre. Et Oui, d'être dans l'intimité d'une jeune fille à laquelle je pouvais m'identifier en tout et pour tout et savoir ce qu'elle vivait. Et puis cette fin, voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et ça m'a fait comprendre aussi la force du témoignage et de la littérature, oui. J'allais dire de la fiction, c'est même pas une fiction, mais de l'histoire.
Parmi les autrices importantes pour vous, il y a Colette.
Oui.
Et avant d'en parler, on va l'écouter. Ah.
Je voudrais pourtant bien que mes modestes causeries ne ressemblent pas exactement à des bulletins météorologiques. Il me semble que je n'aurais pas seulement fait acte de bavardage, mais que j'aurais peut-être fourni à d'autres entravés, d'autres fatigués comme moi, que je leur aurais fourni un encouragement à penser un peu autrement, à feuilleter le passé d'une autre manière qu'elles n'ont l'habitude de le faire. Il y a pour le souvenir d'autres formes, Dieu merci, d'autres formes que le regret, et encore le regret, et toujours le regret, la merveilleuse possession qu'est le souvenir. Personne ne peut plus nous l'ôter.
Alors elle dit beaucoup, beaucoup de choses en 54 secondes, Colette, mais pour reprendre l'un des termes qu'elle emploie, est-ce que vous vous êtes sentie d'une façon ou d'une autre entravée?
Ouais, c'est drôle, j'allais reprendre cet adjectif, qu'est-ce que c'est beau. Oui, bien sûr, par moments. Mais elle l'emploie aussi pour dire fatiguée, pour dire... Mais c'est... il est beau cet extrait, enfin, de toute façon tous ces entretiens sont vraiment un délice pour les oreilles, parce que c'est d'abord il y a cet accent, il y a cette précision dans le choix des mots, et il y a toute sa joie de vivre, enfin sa façon, sa recherche du bonheur, et sa oui, je trouve que c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup de clés pour le bonheur, parce qu'elle goûte, que ce soit l'éclosion d'une fleur, que ce soit le goût de tel ou tel aliment, des animaux, des mots, et là du souvenir. Et c'est vrai que on a ce mot en français qui est nostalgie, mais ça veut dire algie, la douleur du passé. Or, en brésilien, c'est saudade, qui est le plaisir de se souvenir. Et c'est ça dont elle parle et que je trouve très juste, justement, et je vais pas la paraphraser, mais c'est vrai que c'est à chaque fois une joie. Je conseille à tout le monde ces enregistrements qu'on trouve
facilement. Mais alors, je conseille Itou. Les années lycée, Henri IV à Paris, après une prépa littéraire dans le même lycée avec Monsieur Jacob. C'est la littérature qui compte.
Oui.
Et au lycée, déjà, aussi, auparavant, le club théâtre, le cours Florent, parallèlement, que vous intégrez très jeune. Et puis, on y reviendra, évidemment, plus tard pour parler de musique, le conservatoire de musique pour apprendre le chant, le piano. À ce moment-là...
Le chant.
Le chant.
Je fais un peu de piano, mais pas du tout conservatoire.
Petit peu de piano.
Oui, mais
voilà.
Mais,
nous y reviendrons. Mais non, vous faites bien de préciser. Dans ces années-là, vous hésitez entre chant et comédie. Qu'est-ce qui fait que c'est la comédie, finalement, qui l'emporte, si je puis dire?
C'est que... comme j'ai commencé tôt les cours de théâtre, dès l'âge de 14 ans, et à l'époque, ça se faisait pas du tout. C'était pas bien vu d'être apprentie comédienne. Le mot intermittent n'existait pas. Enfin, bon, bref. Et j'avais, j'étais pleine de doutes. J'avais peu de casting. Quand j'en avais, ça se passait pas bien. Je me trouvais trop grosse, trop moche, trop mec, trop grande, trop petite, trop vieille, trop, enfin rien n'allait, enfin, et c'est vrai que dans le conservatoire du 7e arrondissement avec Madame Guermann, j'ai respiré à nouveau, j'ai été dans un rythme, dans quelque chose où je pouvais apprendre quelque chose, parce que c'est vrai que c'est dur d'aller passer un casting où juste on vous regarde de la tête aux pieds comme une vendeuse de jeans qui dit non, il y a pas votre taille, et au revoir madame, il y a rien de plus déprimant. Je pense que tous les acteurs et actrices qui peuvent m'entendre ont vécu la même chose, donc on se dit mais on m'aime pas, ce qui est faux évidemment, mais bref, on se sent rejeté. Avec la musique, j'ai eu l'impression d'apprendre quelque chose, d'apprendre un art où il fallait du temps, où j'étais pas juste jugée sur un physique qui correspondait ou pas à tel ou tel rôle, ou je ne sais pas quoi. J'étais dans un apprentissage avec... ça m'a fait un bien fou, mais... assez vite, enfin un bout de 1 ou 2 ans, je suis retombée sur les mêmes doutes. J'y arriverai jamais, je suis trop ceci, pas assez cela, ma voix, enfin etc. Bon, donc là j'ai commencé une thérapie d'abord, et ensuite il y a eu l'école de Chéreau,
l'école des Amandiers,
de Pierre Roman, qui a fait un concours et incroyable, alors que j'avais été refusée 2 fois au conservatoire et dans tous les autres, et j'ai été prise. Voilà.
Aux Amandiers, dans ce cadre-là, ça aurait pu être une voie, hein, parce que vous avez fait un stage dans une école de comédie musicale. Vous auriez pu rester là, ça réunissait vos passions finalement.
Ah, c'était fabuleux, c'était oui, très 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 réjouissant, très instructif, aux antipodes de l'apprentissage des Amandiers. Et de l'apprentissage français d'ailleurs en général, c'était vraiment très passionnant. Mais j'allais pas rester en Amérique quoi, quand même.
Mais bon, ça aurait pu être Agnès Jaoui que je reçois aujourd'hui, mais non. Mais je suis très heureux de recevoir Agnès Jaoui. Alors j'ai vérifié une année qui me semble très importante, 87. J'espère ne pas me tromper ce coup-ci, parce que vraiment j'ai cherché, parce que je me dis, est-ce que c'est possible de faire autant de choses une même année? Sort Hôtel de France, film de Patrice Chéreau, sort L'Amoureuse de Jacques Doyon, vous jouez donc dans les deux. Au théâtre, alors c'est là que ça devient compliqué, hein. Vous jouez dans Pentesilée, Diptyque avec Petite Catherine de Hedbron, de Kleiss, mise en scène par Pierre Roman, mais aussi dans Le Plateau Neuf de Tchekhov, mise en scène par Chéreau, les deux sont aux Amandiers à Avignon, toujours en 87. Vous jouez dans L'Anniversaire d'Harold Pinter, mise en scène par Jean-Michel Ribes au théâtre Tristan Bernard. Alors là, c'est la trahison, évidemment, vous passez dans le privé. Mais vous avez pour partenaire de jeu Jean-Pierre Bacri. C'est cette même année, 87?
Je serais incapable de vous dire, parce que je suis très mauvaise en date.
Hein.
Et enfin, oui, ça doit être par là, en tout cas.
Quelle année?
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, ça a été une année importante où j'ai découvert et compris beaucoup de choses sur les codes de la bonne pensée.
Bon, très belle expérience aussi. 4 ans plus tard, vous signez et jouez avec Jean-Pierre Bacri votre première pièce ensemble, Cuisine et Dépendance, devenue un film en 1993. L'année suivante, suivant le film, c'est La Création d'un art de famille, qui deviendra aussi un film en 96. Et dans ces mêmes années, vous co-signez 2 scénarios pour Alain René, plutôt 3, puisqu'il y a le diptyque Smoking, No Smoking, puis On connaît la chanson. Bon, ce travail-là, il donne quand même 4 Césars, répartis sur les différents films. Pour parler de votre style, je vais vous proposer d'écouter une autre voix, une courte archive. Vous allez entendre Buster Keaton en 1950.
Il a parlé de mon style.
Oui. Non, j'ai choisi finalement, alors pas le moment où il parlait de vous, mais il parlait de Charlie Chaplin.
Okay.
Charlie is, I think, is the first one to ever stop being just an out-and-out king's jester and circus clown and try to be human. In other words, he's a character comedian, so that he was... in a position when he stopped fooling and trying to do ridiculous things to get laughs, could turn around and tell a human interest story. And actually get under your skin with it. In other words, he brought Polyarch to life.
Je pense que Charlie Chaplin est un clown, mais c'est un très grand clown, et c'est le premier clown, ce que nous appelons en anglais de character comedian, c'est-à-dire un acteur de caractère, un acteur comique, qui a apporté la vie à quelque chose d'humain dans le comique. C'est le premier à avoir apporté dans le déroulement comique d'une histoire le côté humain, c'est-à-dire de rentrer dans la peau du spectateur et de soulever par le comique des problèmes profondément humains. En un seul mot, on peut dire qu'il a apporté la vie, il a mis dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, il a porté à la vie le personnage de paillasse.
Alors oui, je crois que Buster Keaton parlait de vous, déjà oui. Non mais l'humour et l'humain, c'est bien cela?
Oui.
Votre signature, vos signatures.
Oui, enfin, en tout cas, c'est beau. Je connaissais pas du tout ce témoignage de Buster Keaton qui lui aussi a amené l'humain dans l'humour. Et oui.
Non, parce que ça me permet d'évoquer aussi votre goût pour Buster Keaton, notamment, comme ça, en même temps, je place au passage que vous êtes devenue la présidente de l'excellente Cinémathèque de Toulouse depuis janvier, que c'est une autre façon aussi de faire partager vos goûts, vos plaisirs aux autres.
Je fais une toute petite partie de la programmation. C'est l'équipe formidable qui fait un travail de dingue à la Cinémathèque.
Et ça fait des années que ça dure à Toulouse. Ah, oui. C'est vraiment une équipe en or.
Absolument.
Mais je vais relancer quand même sur l'humour et l'humain pour en venir au film que vous avez réalisé. Le premier, c'est en 2000, c'est Le Goût des Autres. 4 millions de spectateurs, 4 Césars. Bon, depuis, il y a eu 4 autres films. La genèse d'un film, pour vous, c'est quoi ? C'est une idée, c'est une image, c'est une envie, c'est un personnage ?
C'est plutôt un thème. C'est plutôt... je sais pas. Alors, il y a des thèmes qui reviennent souvent dans nos films, sur l'idée de changer, comment c'est difficile de changer la société, de changer soi-même, mais voilà, il y a des fois des thèmes dont on parlait énormément, dans une époque, etc. Et j'ai l'impression que mon point de vue n'est pas exprimé, ou qu'il peut y avoir quelque chose de savoureux à l'exprimer de telle ou telle façon. Et c'est beaucoup ça qui était moteur et qui est toujours moteur pour écrire, pour moi.
Écrire, c'est à la fois parler de choses dont il vous semble qu'on ne parle pas assez ou pas bien, mais aussi, ça a été écrire pour vous, en tant que comédienne, comédien.
Oui, ça, c'est le chômage a été ma première.
Mais au-delà du chômage, vraiment, pour trouver les rôles que vous aviez envie de jouer.
Ah oui, mais pour trouver des rôles tout court, hein, franchement, c'était
vraiment.
Oui,
mais enfin, ça, c'est au tout début.
Ah oui, au tout début. Oui. Et après, c'était. C'est parce qu'on avait envie de continuer à écrire, que ça nous a plu et qu'on. On aimait ce qu'on faisait. Et qu'on continuait à avoir envie d'exprimer. Nos points de vue sur tel et tel sujet.
Bon, allez, je renvoie à la série d'entretiens à voix nue avec Ilana Navarro pour continuer à mieux connaître et développer ce travail au cinéma. Mais il est grand temps quand même qu'on parle de musique, puisque c'est quand même votre actualité. Agnès Jaoui, en ce moment sur la scène de le théâtre de l'Atelier à Paris, où vous faites escale dans cette tournée au long cours, pour Dans mon salon. On l'a évoqué tout à l'heure, vous avez suivi des cours de chant au conservatoire avec Bernadette Val. Ce goût du chant, il vous vient d'où, selon vous ?
Oh, je pense que vraiment c'est parce que mon père écoutait et écoute encore énormément de chants de toutes sortes, mais aussi de l'opéra et beaucoup de voix de femmes en fait. Et je crois que j'avais envie de mon cœur est à papa, évidemment.
You know, le propriétaire.
Absolument. Et donc voilà, et donc j'ai moi-même eu envie d'être admirée à la place de ces femmes.
Et puis, il y a cet apprentissage, puis ce que j'ai très 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 rapidement résumé d'un parcours important d'auteur, d'autrice, de comédienne, de réalisatrice. Et puis, ai-je lu, il y a un voyage à Cuba qui fait remonter plein de choses du passé par la musique, des musiques latines qui vous touchent, mais à quel endroit en fait ?
Je suis allée à Cuba et... en connaissant absolument rien de Cuba, c'était avant Buena Vista Social Club, etc. Et puis je connaissais pas la littérature sud-américaine, même en général, à part 100 ans de solitude, j'avais vraiment pas... Donc j'y suis allée pour trouver du soleil, en hiver. Et puis c'est vrai que j'ai eu dès le début, et surtout en entendant ces chants, ces voix, beaucoup à la tierce, beaucoup, ils chantent beaucoup à plusieurs... ce sentiment qu'on peut avoir de reconnaissance, quoi, d'avoir l'impression d'avoir vécu dans une autre vie là. En plus, c'est quand même Cuba, vous faites un voyage dans le temps, mais dans le passé aussi, puisque tout s'est arrêté il y a 50 ou 60 ans, donc je pense que j'y ai retrouvé la Tunisie de mes parents, justement. Une façon d'être dans la rue, de se parler, de... je pense que... Et cette musique, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fait, elle... que Enrico Macias, qui était le héros de ma famille, puisque c'était un juif d'Afrique du Nord aimé par les Français, accepté. Donc, je crois que ça a été très important pour toutes mes tantes, pour beaucoup de gens, parce que voilà, on se dit, bah, c'est possible qu'on soit aimé aussi, puisque lui, il l'est en tout cas. Et donc, j'en ai beaucoup écouté. Et tout d'un coup, quand j'ai dû chanter avec lui pour un Champs-Élysées ou un, je sais plus quoi, une émission de Drucker, eh ben, je me suis rendu compte que bah, c'était des rythmes arabo-andalous et des rythmes cubains, et qu'il y avait du boléro, qu'il y avait de la... Enfin, voilà, tout ce qui constitue... Donc, en fait, j'avais pas complètement rêvé. Et en plus, il y a aussi des parallèles avec la musique baroque. Dans le contretemps, dans le... Et là, avec Christina Pluhar, dont j'ai découvert le travail plus tard, qui est une grande musicienne qui aussi adapte des musiques populaires avec des instruments anciens. Bon, bref, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait en fait plein de raisons à ce sentiment de reconnaissance que j'ai eu.
Puis après, de fait, vous avez mieux connu et de plus en plus l'Amérique latine. Le Brésil a une part importante et votre choix musical, on vous écoutera vous chanter dans quelques minutes, mais vous avez eu envie que nous écoutions une chanson interprétée par le guitariste Plinio Fernandes et la chanteuse Maria Rita, qui sont toutes deux brésiliens. Pourquoi ce choix, Agnès Jaoui?
Ils interprètent une chanson de Cartola qui est magnifique. Cartola, c'est un chanteur, compositeur brésilien, mais tellement adorable, à tous les sens du terme. C'est drôle, alors il faudrait traduire toutes les paroles, mais c'est un argot et une délicieux et une sensibilité. Enfin, bon, c'est une reprise très belle, je trouve.
Écoutons-la.
Ainda cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber bem o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem. Preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira de um abismo, abismo que cavaste com teus pés. Thank you. sonhos tão mesquinhos vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo quando notares estás à beira de um abismo, abismo que cavaste com teus pés.
Ça me fait du bien. Merci Agnès Jaoui pour ce
le
choix.
Le monde est un moulin.
Le monde est un moulin. Venons-en à vous, 2006, premier album, Canta, plein de musique latine que vous chantez exclusivement en espagnol et en portugais, brésilien, qui sera disque d'or, tourné en France, victoire de la musique, album musique du monde, comme on disait alors. Alors vous étiez d'ailleurs déjà très habitué aux récompenses, Agnès Jaoui, mais est-ce que celle-là, elle a une saveur particulière ?
Oui, parce que je m'y attendais pas et parce que le monde de la musique, on n'accueille pas toujours les actrices qui chantent.
Oui, avec un tapis de rose, oui.
Voilà. Et donc, c'était gentil.
Le chant, concrètement, physiquement, qu'est-ce que ça procure pour vous ?
De la joie. Une joie profonde, ça oxygène, on respire et ça aussi, on est dans le moment présent. On peut pas réfléchir à autre chose quand on chante. On est aussi dans le partage. On est dans une recherche d'harmonie. On est ça oxygène. C'est extrêmement bénéfique et d'ailleurs, c'est ce que disent les spectateurs quand ils sortent. Ça fait du bien parce qu'ils chantent avec nous dans le spectacle. À un moment, ils dansent avec nous. Enfin bon, voilà. Et c'est vrai que c'est très jubilant. Et en plus, la voix, c'est quelque chose de particulier. J'entendais donc la voix de la dame qui faisait les informations. J'ai oublié son
prénom. Marie-Hélène Dumont.
Marie-Hélène, merci. Et puis quand j'écoute la radio, c'est pour ça que j'aime autant la radio. D'abord parce qu'on a le temps et que ça, voilà, c'est quand même un peu plus humain que ce qui peut se passer à la télévision, mais aussi parce que souvent on n'a pas les visages. Des fois, on ne sait pas qui parle et on est chopé par quelqu'un. Et après, moi, ça m'est arrivé de me dire, oh merde, c'est pas possible. Et j'avais découvert quelqu'un d'autre. J'avais pas eu le temps d'avoir mes préjugés ou l'inverse. Enfin. C'est un chemin magnifique de travailler sa voix pour toute la vie. Ça vous ouvre des pieds à la tête, ça vous nourrit. Je pourrais en parler des heures entières.
Et comment est-ce que vous la travaillez justement, votre voix ?
Alors avec des tas d'exercices de chant que je pratique encore, mais je vois un petit peu moins les professeurs. C'est Sophie Hervé qui maintenant me fait travailler, mais je la vois moins régulièrement. Mais voilà, c'est très important de. Il y a quelques voix naturelles, mais enfin c'est quand même très rare. C'est très important d'avoir des professeurs et de bons professeurs. Et puis après aussi en chantant avec les autres, évidemment. Parce que là aussi, c'est ça qui est beau, ça oblige à l'écoute de l'autre. Ça oblige à l'écoute, ça oblige à considérer l'autre. Et ça l'oblige par la joie, par le bonheur d'être avec l'autre.
Puis on le voit dans mon salon, votre palette est large, Agnès Jaoui, du baroque, donc au contemporain, en passant par des chansons populaires. Mais vos talents lyriques sont assez impressionnants. C'était aussi l'idée, dans mon salon, d'ouvrir l'éventail, de dire « j'aime tout ça, ça c'est moi ».
Oui, et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai hésité. Enfin, j'ai hésité. J'avais un peu de pudeur, de honte, de gêne, enfin, un milliard de trucs, à chanter, enfin voilà, de façon lyrique devant les gens, parce que je, bon, pour plein de raisons.
Bon, il fallait pas.
Et puis, mais je le faisais dans mon salon, puis je le faisais dans des églises, je le faisais avec Quentin Alleg, mes amis, et avec beaucoup de bonheur. Et puis voilà, en faisant ces concerts avec Carabanchel, en mélangeant, etc. Je me suis dit que je me le suis autorisé, et puis aussi parce que c'est ça que j'aime dans ce spectacle, c'est que je vois bien que le public des fois n'est pas habitué, ça t'en pas une cantate de Bach, n'est pas habitué du contemporain, n'est pas habitué, et le fait de passer de tous ces styles avec les mêmes musiciens et les mêmes chanteurs, il a pas le temps de fermer ses oreilles, et des fois il découvre en fait qu'il adore Bach, ou qu'il adore Forêt, ou qu'il adore telle musique contemporaine qu'il connaissait pas. Donc moi, c'est ce qui me réjouit, c'est faire découvrir des choses à des gens qui ne les connaissent pas forcément et qui pensaient aussi peut-être ne pas être autorisés à aimer ces choses-là.
Alors, il faudrait peut-être pas que j'annonce que c'est vous qu'on va entendre chanter, parce que ça pourrait choper des gens qui ne s'y attendent pas. Bon, je le dis quand même, une chanson. Alors, c'était compliqué de faire un choix. Bon, je l'expliquerai dans un instant, mais une chanson écrite par Joshua Sobol pour les paroles, Shlomo Bar pour la musique. C'est Yeladim Ze Simcha que vous chantez dans votre album Nostalgias, qui est une chanson en hébreu. On en parle après.
שניים תגיעו, שלושה תגיעו, ארבעה ילדים תקבלו שיכונים, כניסה ומדבר ושתי חדרים קטנים תביאו ארבעה, תביאו חמישה, תביאו שישה ילדים תקבלו הנחה וכבוד מקרובים אתם אוהבים ילדים ילדים זה שמחה ילדים זה ברכה ולכם יש לב של זהב כתוב בתורה אולי בגמרא תביאו שבעה, תביאו שמונה ילדים זאת לא בטיחה, רציחה, בצייחים נרמדים תביאו את חייזה ולעם הלוחי תביאו עשרים ילדים אלוהי כבר ייתן מסת גם כן מה שצריכים ילדים אלוהי הוא גדול קשה לו לזמול שחד יקבל את הכל ואחד הוא דוחף
Oui, c'était bien, Agnès Jaoui, qui a eu du mal à s'écouter elle-même, et moi j'ai grand plaisir, mais cette chanson, parce que chanter en hébreu, c'est aussi une façon très différente de parler de vous, de votre histoire. Ce que vous faites en musique
vous... Oui, dans ce disque, je chante en hébreu et en arabe, une chanson de Férouz. Oui. Bon, avec l'accent que j'ai dans ces deux chansons, non, je dis ça parce que j'aime bien travailler les accents et j'aime bien, c'est très important, les diphtongues aux brésiliens, tout ça. Mais là, je suis pas sûre que je sois vraiment arrivée à un grand résultat au point de vue de l'accent. Mais enfin bon. Oui, c'est, puis Avrera Tivit, Shlomo Bar, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté en Israël et qui a un orchestre avec justement des musiciens, de tout le Maghreb et même de Perse, qui pratiquent ces mélanges-là et qui sont importants pour moi, oui.
Bon, ce sont quelques couleurs qu'on a données dans un temps trop court, on savait bien, mais bon, c'est la première fois qu'on se rencontre, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'il aurait fallu aborder, ou dont nous aurions pu parler. Je signale quand même la sortie de Yuku et la fleur de l'Himalaya d'Arnaud Demain avec le 19 octobre, parce qu'on entendra aussi autrement votre voix.
Une biche, là.
Voilà, c'est encore autre chose.
Un dessin animé, super.
Vous allez reprendre le chemin des plateaux de cinéma pour tourner avec Julien Carpentier La vie de ma mère, ça c'est pour bientôt. Je rappelle quand même que vous avez réalisé aussi 7 épisodes de la saison 2 dans Thérapie, on en parlait avec Frédéric Pierrot il y a quelques jours, mais je rappelle surtout que vous êtes jusqu'au 17 octobre, au Théâtre de l'Atelier, à Paris, avec l'ensemble Canto Allegri et l'orchestre Carabanchel pour Dans mon salon, et une tournée qui se poursuit jusqu'au mois de mai. Merci, Nadia Javoué.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
C'est l'heure d'Affaires critiques à présent avec vous, Lucille Como. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Et ce soir, plein feu, c'est vous qui le dites, sur le dernier roman de Mathieu Bellesi, Attaquer la Terre et le Soleil, rien que ça, c'est paru au Tripode.
Oui, la Terre et le Soleil du titre, ce sont ceux de l'Algérie, depuis peu française. Nous sommes donc, on l'imagine, dans les années 1830-1840, et sur ces terres, deux voix se percutent. C'est d'abord celle de Séraphine, une femme colon, qui débarque en hiver avec son mari, ses trois enfants et sa sœur après un long voyage, et affronte sur la terre algérienne des conditions de vie abominables, les frimas l'hiver, la canicule l'été, la dureté du travail sur cette terre sèche, le choléra qui décime sa colonie et sa famille, la peur des Arabes autour. Et puis celle, collective et guerrière, d'un escadron de soldats qui pillent, violent, massacrent sur leur passage sans guère de raison ou de stratégie, autre qu'une espèce de principe martelé idiotement, on n'est pas des anges. Mathieu Bellesi est un écrivain obsédé par l'Algérie, sa colonisation, sa guerre ensuite, et cette obsession, elle prend la forme ici dans l'écriture d'un débordement sensoriel impressionnant. Chaque phrase sature de sensations que le titre dit d'ailleurs. L'éblouissement de la lumière un jour de mariage chez les colons, le froid de la pluie sur des tentes précaires, la chaleur visqueuse du sang qui coule à flot, les odeurs pestilentielles du choléra qui emportent en une journée des familles entières. C'est un roman de la terre, du travail et de la chair, avec des descriptions formidables qui font penser à du Jean Giono, par exemple, dans l'évocation de l'épidémie notamment.
Quels effets est-ce que ce trop-plein, cette saturation dont vous parlez font au lecteur ou en tout cas à la lectrice que vous êtes, Lucille ?
Il est très efficace ce roman. C'est un roman de la peine. Je dois dire que j'ai vraiment été saisie par la force de ce personnage de pionnière dont la parole est à la fois d'une simplicité et d'une intensité rare. C'est pas un très long roman, mais il est ample. La narration est subjective, mais on n'est pas non plus dans du monologue intérieur hyper démonstratif. C'est vraiment la vie racontée dans l'ordre chronologique, une vie de misère remplie de fautes et de morts. De la même manière, la violence des soldats français est dite à l'échelle d'une poignée d'individus. C'est une violence inouïe, mais ordinaire, et racontée à ras de la banalité, sans jamais que rien ne surplombe. Ce sont des scènes difficiles à lire parfois, des viols collectifs, des décapitations arbitraires. Tout ça dans la langue des gens, dans leur diction, dans leurs expressions. Par exemple, la protagoniste Colomb, elle répète régulièrement « Sainte et Sainte Mère de Dieu » pour ponctuer son récit comme une prière ou un signe du repentir. Les soldats, eux, ils ont le vocabulaire des bidasses, ils parlent de leur grolle, de bidoche, de se faire péter la rate. Et puis il y a tous ces mots de la colonisation, parce que la colonisation française en Algérie, c'est aussi un vocabulaire. Les barbares, les yatagans, ces sabres à la turque utilisés par les Algériens, les moukers, qui désignent les femmes maghrébines, le fondouk, un entrepôt de marchands. Des mots comme une langue de la domination et de la violence qui se fondent dans une forme poétique singulière. Le livre est écrit en courts chapitres avec de fréquents retours à la ligne sans majuscules comme des vers libres, ce qui lui donne un effet d'oralité assez saisissant, une espèce de souffle épique, mais ce serait l'épopée des victimes, des faibles et des lâches. Alors il y a une dénonciation de la violence colonisatrice dans le roman par le pathétique, et par l'absurde. Bon, le pathétique, c'est vraiment du côté de cette femme écrasée par une décision qui ne lui appartient pas vraiment, celle de quitter son pays pour se retrouver dans une terre qui n'est littéralement pas pour elle, où elle ne peut pas vivre, et l'absurdité du côté de cette bande de soldats pillards qui brandissent des principes de civilisation pour se laisser aller au plus bas instinct, sans motivation idéologique aucune. C'est l'horreur, mais il y a quelque chose de comique dans ces pages-là, notamment à travers ce personnage du capitaine qui motive ses troupes en aboyant et en promettant toujours plus de chair fraîche. C'est le chef des ogres, une espèce de père Ubu énorme qui a peine à monter sur son cheval parce que son corps est gorgé de toutes les exactions qu'il commet. La colonisation, ainsi décrite, n'est pas une doctrine ou un principe, elle est une basse tâche, un bain de sang, de viscère, de sexe et de gnôle qui noie tout le monde.
Ah mais pas vous, Lucille, hein.
J'en suis sortie.
Ah ouais, ouais. C'est quelque chose.
Oui, oui, c'est quelque chose, ce livre. Vraiment, ouais. Il est court, ça se lit vite, mais c'est quelque chose.
Bon. Eh bien, lisons. Lisons. Attaquer la Terre et le Soleil de Mathieu Bellesi, c'est paru aux éditions du Tripode. Changement de registre. En tout cas, je l'espère, avec vous, Marie Sorbier, pour Affaires en cours.
On passe pas tout le temps
là-dedans. Mais il y a un lien, on va le voir bientôt.
Alors, ce soir, en effet, vous revenez sur la définition même de l'espace public.
Oui, car depuis les années 2010, dans différentes parties du monde, l'espace public est devenu un lieu ouvert pour envisager la politique autrement. D'Alger à New York, de Kiev au Caire ou de Santiago à Paris, le peuple se réunit sur les places publiques pour peser concrètement et culturellement sur le bien commun. Je suis allée retrouver Sandra Laugier pour qu'elle nous raconte comment nos espaces publics ne sont plus les mêmes depuis ce que l'on appelle désormais le mouvement des places. Sandra Laugier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, vous travaillez notamment sur la désobéissance civile, entre autres. Est-ce que l'espace public d'aujourd'hui est le même ou est-ce que les récentes prises de possession des citoyens lui donnent une aura nouvelle, selon vous ?
Je crois que le mot espace public, l'expression, a complètement changé de sens depuis le début de ce siècle, en réalité, et qu'on n'a pas complètement pris en compte, en fait, cette transformation, puisque au siècle précédent, et même encore récemment, l'espace public, c'était une sorte de concept intellectuel sur des normes qui gouvernaient les échanges donc démocratiques. Et donc, c'était quelque chose qui était relativement abstrait. Et le grand changement qu'il y a eu, et ça, c'est vraiment à partir de ce siècle, c'est-à-dire d'abord avec des actions de désobéissance civile, et ensuite, ce qui a suivi, c'est-à-dire les mouvements d'occupation des places, donc de l'espace public, par des citoyens.
Il y a un lien, selon vous, entre la désobéissance civile et cette prise de possession de l'espace public ?
Ah oui, tout à fait, puisque la désobéissance civile, c'est l'émergence d'un pouvoir citoyen, le fait que des citoyens considèrent qu'ils peuvent avoir raison contre l'État, contre des règles qu'ils trouvent iniques. Et donc, il y a vraiment le début, en fait, de la définition d'une autonomie politique du citoyen et de l'idée que les citoyens sont peut-être les mieux placés pour décider ce qui est du bien public. Et quand il y a eu des mouvements d'occupation, ils n'étaient pas forcément de l'ordre de la désobéissance, puisque c'est pas illégal en soi d'occuper un espace, mais ça peut être très vite considéré comme illégal. On l'a vu et on se fait évacuer. Mais en tout cas, ces mouvements d'occupation, ce qui vraiment les caractérise, c'est qu'ils ont été une occupation matérielle de l'espace public, d'un espace qui est le sol, la terre elle-même. Donc l'espace public, c'est matérialisé et littéralisé. Bien sûr, c'est aller avec une prise de conscience aussi que cet espace public, c'est le sol, mais c'est aussi la terre, en fait, et que la terre appartient aussi aux citoyens et que c'est eux et elles, bien sûr, qui en ont la responsabilité.
Vous placez au cœur de l'espace public la conversation, le langage. Est-ce que l'espace public est le lieu d'expression de ceux qui n'avaient plus la parole ?
Alors, totalement. Et c'est vrai que les définitions antérieures de l'espace public, comme celle de Habermas ou de Rawls, donc des penseurs politiques qui ont défini cela, étaient aussi basées sur des usages du langage qui étaient gouvernés par des normes et des significations partagées. Ce qui est assez remarquable aussi dans cette nouvelle définition de l'espace public, c'est qu'on a effectivement un espace public de l'expression collective. Donc c'est toujours du langage, mais ce langage va être le lieu d'expression de celles et ceux qui n'ont pas la parole habituellement. Et donc, on va avoir en fait une occupation par la voix et aussi une occupation avec des règles linguistiques complètement différentes. Il y avait des règles extrêmement déterminée de prise de parole et d'égalité. Et donc, ce qu'on a dans ces nouvelles formes de l'espace public qui sont réalisées, eh bien, c'est aussi des nouveaux espaces de parole et une égalité, la mise en œuvre concrète du principe d'égalité qui commence, on le sait bien, avec l'égalité dans la parole et dans le droit à la parole.
Louis Quéré a cette formule signifiante, il parle de l'espace public comme d'une communauté d'aventure, vous êtes d'accord avec ça?
Alors j'adore cette expression, et si on parle de communauté d'aventure, mais qu'est-ce que c'est que la démocratie en tant qu'aspiration, en tant que bien commun? Eh bien c'est une situation où les citoyens se mettent ensemble pour résoudre un problème qui leur est posé, celui de l'environnement par exemple en ce moment. Et donc pour résoudre ce problème, il faut une communauté, il faut explorer ensemble. C'est une enquête collective et c'est cela la vraie aventure aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez que lors de ces débats ou de ces manifestations citoyennes dans l'espace public, on peut dépasser l'opinion pour parvenir à des décisions? Est-ce qu'on arrive à du concret?
Alors je crois que par définition, déjà, ces occupations de l'espace public, c'est l'affirmation que la politique, c'est du concret, c'est de l'action. Et donc il ne suffit pas de parler de conversation et d'espace commun. Il faut vraiment que les gens soient ensemble physiquement et qu'ils occupent des terrains et qu'ils fassent des propositions et toutes ces initiatives. Toutes les mobilisations sont toujours porteuses de nouvelles propositions. Simplement, elles ne sont pas suffisamment entendues. Même aujourd'hui, où on essaye quand même de prendre en compte la vie des citoyens, il y a beaucoup de tentatives en ce sens. Mais ce qui manque, c'est plutôt la capacité à mettre en œuvre, par des mesures, les propositions des citoyens.
On l'a dit, ce n'est pas qu'en France qu'on retrouve ces mouvements-là, on le trouve maintenant dans le monde entier. Est-ce que vous avez défini des particularismes ou des justement points communs qui se sont révélés comme ça partout dans le monde sur ces manifestations dans l'espace public?
Alors, ce qui était assez extraordinaire, notamment peut-être dans les années 2010, c'est cette multiplication de mouvements, puisque en effet, il y a eu Occupy Wall Street, il y a eu l'Espagne, la France, le Québec et bien sûr Maïdan. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui en Ukraine, c'est la continuation de Maïdan et puis des occupations aussi plus dramatiques à Tiananmen, etc. Donc il y a eu vraiment une sorte de convergence de mouvements et je pense que le fait qu'ils aient eu lieu ensemble faisait aussi qu'ils étaient informés à l'époque, peut-être mieux que maintenant, de ce qui se passait dans les autres pays. Il y a eu une sorte d'encouragement mutuel et de surcroît, il y avait vraiment des éléments communs, c'est-à-dire des mouvements qui n'avaient pas de chef, avec des volontés de vivre très directement la démocratie et un fonctionnement égalitaire et avec, comme clé de voûte, la demande de plus de démocratie, de l'intégration de plus de personnes, tout simplement, dans la politique. Et ça, c'est absolument universel.
L'ouvrage collectif que vous co-signez, Revendiquer l'espace public, vient de paraître aux éditions du CNRS. Merci beaucoup, Sandra Laugier.
Et merci à vous, Marie Sorbier. Chaque vendredi, cette saison, nous prenons des nouvelles des artistes en résidence à la Villa Albertine aux États-Unis. Ce programme qui est piloté par Gaëtan Bruel et Emma Butin qui propose des résidences sur mesure à des artistes de toutes disciplines. Nous en parlons ce soir avec la cinéaste Baya Bencher Elfegoun qui est en ligne avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géologue de formation, vous travaillez dans le cinéma depuis 2003, mais on va voir comment vous fouillez. Dans le cinéma depuis 2003, d'abord en tant qu'assistante de réalisation, avant de réaliser un premier court-métrage, C'est à Constantine. C'était en 2008, depuis il y a eu deux autres courts-métrages, trois films documentaires. Dans votre premier film long, Nous, dehors, vous interrogiez la place de la femme et de son corps dans l'espace public, justement habité par... la croyance occupée par des hommes dans le pays où vous vivez, en tout cas, et pas seulement, mais l'Algérie. Votre nouveau film dont on va parler était exclusivement féminin. C'est pour lui que vous êtes résidente à la Villa Albertine, essentiellement à New York. Est-ce que vous pouvez, Baya Bencher Elfegoun, nous expliquer le point de départ de ce nouveau film?
En fait, c'était pendant le confinement. Voilà, j'étais là à lire un livre sur les sorcières. Donc je tombe sur un paragraphe où il est question de ce mouvement féministe de 1968 où ces femmes vont faire une manifestation donc en face de Wall Street, voilà, symbole suprême du patriarcat. Et donc dans le texte, il est dit que voilà, les yeux fermés, la tête baissée, les femmes entonnèrent un chant berbère sacré aux yeux des sorcières algériennes. Et là, ben, je stoppe, quoi, et je me dis, mais de quoi on parle? Il est bien question de New York, 1968. C'est quoi ce chant? Qui l'a chanté? Comment il a voyagé? Qui sont ces femmes? Comment elles ont entendu parler? Enfin, ça a été une déferlante de questions comme ça dans ma tête. Et puis, je me suis dit, il y aurait vraiment... Enfin, il y a un vrai travail d'investigation à faire sur ce chant-là en particulier. Et ce moment-là, et donc, voilà.
Donc, enquête. Et pour cette enquête, vous êtes venu évidemment à New York, où là, en ce jour d'Halloween 68, ce mouvement, Witch, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, ça fait Witch, ça fait donc sorcière, ce qui est formidable. Où en êtes-vous de votre enquête, de votre travail?
Alors, en fait, je suis là depuis 3 semaines, bientôt, voilà. Et je serais tentée de dire que les choses n'avancent pas assez vite, mais finalement non, ce serait pas juste, parce que j'ai déjà rencontré une des witch, Bev Grant, qui était photographe et qui a enfin une banque absolument folle de photos, d'images. Vraiment, j'ai passé un très beau moment avec elle. Voilà, elle m'a mis en contact avec une autre des witch, Peggy Dobbins, qui elle est à Atlanta. On échange par mail en ce moment. On verra dans quelle mesure il serait possible de nous rencontrer. Il y a par ailleurs donc Hélène Mortefi qui, elle, avait écrit un livre sur la période donc fin 60, début 70, où Alger était la Mecque des révolutionnaires, où donc elle parle beaucoup des Black Panthers et tout, puisque c'était aussi une des pistes d'investigation, puisque l'idée était aussi de trouver des ponts entre les États-Unis et l'Algérie. Et bon, le hasard a voulu qu'elle soit à Alger en ce moment.
Quand vous êtes, vous, à New York.
Tout à fait. Mais bon, elle devrait rentrer d'ici quelques jours, donc on pourrait se voir. Et en fait, de fil en aiguille, là, c'est très, très vaste, puisque voilà, je rencontre des féministes, des photographes. Enfin, j'ai le sentiment que ça part un peu dans tous les sens. Mais je crois que c'est le propre de l'investigation, en fait. Voilà, c'est que les ramifications sont très larges et que les choses se déroulent. Et voilà, donc je prends.
Alors, de cette histoire, Bencher Elfegoun, il y a cette idée de savoir qui sont les witches, les sorcières d'aujourd'hui, avec peut-être, il y aura peut-être dans votre film, c'est une figure peut-être un peu mythologique d'une sorcière 2.0. Ça, c'était le projet de départ. Mais est-ce que le travail est vraiment en cours? Est-ce que vous avez déjà des idées de forme?
Pas du tout. Voilà, pour être honnête. Je m'étais dit, voilà, c'est une résidence de recherche et d'écriture. Donc, moi qui ai beaucoup d'aisance à l'écrit, d'habitude, ça vient facilement. J'avoue que là, j'ai beaucoup de mal à écrire, mais vraiment, je m'abreuve. Voilà, je fais le tour des librairies ésotériques, des boutiques ésotériques. Je suis en train de chercher quelqu'un pour me faire un witchy tour of New York. Et honnêtement, c'est-à-dire que quand je vous dis que ça va dans tous les sens, c'est vraiment le cas, quoi. Mais non, pour la forme, pour l'instant, non. Non, vraiment pas du tout.
J'ai lu aussi dans votre note d'intention que l'équipe de votre film, donc l'équipe aussi technique, serait exclusivement féminine. Qu'est-ce que vous attendez que ça produise?
En fait, c'est même pas qu'est-ce que j'attends que ça produise. Je crois que c'est une orientation que j'ai pris tout au long de mon travail. Il me semble, en tout cas aujourd'hui, que mon féminisme s'actualise et s'ancre dans... Il me paraît logique et normal et presque évident aujourd'hui que j'ai à travailler avec des femmes pour des raisons, en fait, éminemment politiques, mais aussi artistiques, mais aussi... Ça me paraît logique aujourd'hui que si je parle de questions concernant des femmes, que le regard soit celui porté par des femmes et que la parole soit aussi portée par des femmes. C'est une espèce de cohérence globale dans ma vie. Et donc, qu'est-ce que cela va produire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un chemin vers lequel je tends et qui me semble évident aujourd'hui, en tout cas.
On vous laisse pour l'instant sur ce chemin de la recherche. On a très, très hâte de découvrir ce qui résultera de cette résidence. On prendra des nouvelles, bien sûr, Bahia Bencher Elfegoun. Merci à vous
merci
de ces quelques minutes avec vous. Et puis nous, vendredi prochain, nous prendrons des nouvelles d'une ou un autre artiste en résidence à la Villa Albertine. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter à podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Apolline Limosino.